Le droit à un revenu inconditionnel du début à la fin de notre vie, une piste détaillée par une chef d'entreprise pas comme les autres. Le droit à un revenu inconditionnel, le cheval de bataille de la chef d'entreprise Joëlle Taillefer.
Nos sociétés n'ont jamais été aussi riches et pour cause nous produisons toujours plus mais avec de moins en moins de main-d'œuvre humaine. Résultat, le chômage augmente et la garantie de trouver un travail ou de le garder est de plus en plus précaire. Les réponses des politiques semblent être essentiellement la course à la sacro-sainte croissance et l'installation pas à pas de l'austérité. Pourtant, la première détruit la planète et la deuxième accroît la pauvreté des peuples. Parmi les idées d'alternative à cette crise écologique et humanitaire, une représentation d'un nouveau modèle d'organisation sociale est apparu et a même été testé dans quelques pays ou régions. Le revenu inconditionnel, il répondrait au principe de liberté ainsi que d'égalité et réduirait, voire éliminerait, la pauvreté. Pour détailler la logique de cette nouvelle philosophie, Véronique Hermant a rencontré Joëlle Taillefer de passage à Castellane, riche d'une expérience de plus de 40 ans dans le monde de l'entreprise. Et après en avoir été dirigeante, Joëlle est désormais consultante. Une version complète de ce reportage est disponible sur notre site Fréquence Mistral Castellane. Joëlle Taillefer.
La différence qu'il y a entre ceux qui parlent d'un revenu de base ou d'existence et une dotation, c'est que certains ont pensé qu'il était plus important de donner à chacun la possibilité d'avoir une quantité d'eau à consommer, une quantité de nourriture, un nombre de mètres carrés pour habiter, que ces fondamentaux faisaient partie de la notion de bien commun et que ces biens communs devaient entrer dans la gestion collective. Et donc, que quand on pense revenu citoyen universel, eh bien, la gestion des biens communs devait rentrer dans cette réflexion.
La définition du revenu,
c'est un revenu qui serait donné à chaque être humain du premier jour de sa vie à la mort, de façon totalement inconditionnelle, qu'il ait une activité ou pas, et qui serait le geste donné par la collectivité à la reconnaissance au droit à la vie.
Quelle est la population la plus concernée ?
C'est tout le monde. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes tous enrôlés dans un système qui fait qu'on a placé l'argent, et l'argent ne pouvant être obtenu que globalement par le travail, au cœur des objectifs de la vie humaine. Or, on est sur Terre pour se réaliser, pour exprimer le meilleur de nous-mêmes, pour l'offrir aux autres. L'économie a pris aujourd'hui une place que l'on a dévoyée, c'est-à-dire qu'on a mis les êtres humains au service de l'économie, alors qu'en réalité, l'économie ne devrait être qu'un moyen pour l'être humain de réaliser cette mission de vie qui est la sienne, qui est de venir sur Terre, d'être heureux et de rendre les autres heureux.
En quoi est-ce une manière différente d'aborder le travail ?
C'est une manière différente parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, pas de travail, pas de revenu. On a fait un couple avec travail-revenu. Un revenu nécessite un travail. Et quand on est 6 milliards sur Terre et on s'apprête à aller vers 7, 8, 9 et plus, eh bien, on n'a qu'une seule planète et il n'est pas possible de demander à ces 6 ou 7 ou 9 milliards d'êtres humains d'avoir à produire quelque chose pour justifier d'avoir le droit à la vie par un revenu même minimum. On pense que l'économie est primordiale, que les gens doivent travailler pour justifier l'argent qu'ils gagnent, qu'il faut produire, a fortiori qu'il faut produire mieux que les autres, plus vite que les autres. Et c'est cette logique totalement mortifère qui fait qu'aujourd'hui, le revenu et le travail sont un couple, à mon avis, qu'il faut faire divorcer.
En quoi ce revenu peut-il avoir un impact sur la dignité humaine ?
Bien, vous savez, si vous posez la question à un chômeur, il vous répondra mieux que moi. Un chômeur est considéré comme un paria dans la société aujourd'hui, comme un feignant. On le qualifie de toutes sortes de noms d'oiseaux parce qu'il ne parvient pas à trouver un emploi. La dignité humaine ne se mesure pas au fait qu'on augmente le PIB d'un pays ou pas. La dignité humaine, c'est une valeur intrinsèque de chaque individu. Chacun a le loisir et le devoir dans toute son existence de donner le meilleur de lui-même et de se montrer digne de cette capacité qu'il a à prendre sa respiration tous les matins. Et ça n'a rien à voir avec le fait de travailler ou pas. La dignité humaine, c'est bien autre chose que d'être une machine à produire.
Et là, on parle de dépenses considérables. Où l'État prendrait-il des ressources ?
Je me suis amusée un jour à diviser le PIB français par le nombre d'habitants. Puisqu'on dit le revenu citoyen, c'est du premier jour de la vie à la mort. Donc c'est un nombre d'habitants. Eh bien, si on divise les 2000 milliards de PIB de la France par les 65 millions d'habitants que nous sommes, on obtient 27 000 euros par personne et par an. Il est clair que 27 000 euros, on a de quoi financer un revenu citoyen. Où faut-il aller chercher l'argent? Non pas dans les caisses sociales, c'est ce qui est fait aujourd'hui, et je crois que c'est là que nous devons avoir une réflexion beaucoup plus large au niveau économique national. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pour payer le chômage, pour payer la sécu, pour payer le RSA, on va chercher dans des caisses où les salariés, ceux qui ont un travail, ont cotisé à raison de 1%, 2%, 6%. Et ce prélèvement sur la richesse nationale, c'est la petite cagnotte avec laquelle on essaie de faire face aux besoins fondamentaux des gens. Or, c'est très réducteur et en plus, c'est une erreur économique. La richesse nationale, tout le monde y contribue. Une mère de famille qui élève correctement ses enfants, qui leur évite la délinquance ou qui soigne ses parents malades, contribue autant au bien-être de la société que quelqu'un qui va travailler le matin dans une usine. Par conséquent, il n'y a pas de raison que l'on ne pense pas la capacité à financer le revenu citoyen à partir du PIB et non pas des cotisations sociales qui sont prélevées sur la toute petite partie de gens qui ont encore un emploi. Il faut arrêter de penser que les entreprises doivent être exonérées de leur contribution nationale. Une entreprise, elle entreprend avec des êtres humains. Ces êtres humains sont la seule valeur de l'entreprise.
À votre avis, à combien faut-il estimer ce revenu?
Pour véritablement permettre que l'on ne soit plus obligé de travailler pour vivre, je pense qu'il faudrait le situer entre 1000 et 1500 euros par mois. Quelqu'un qui travaille est quelqu'un qui produit quelque chose, forcément. Un service, un produit, une matière, et pour le faire, il va aller ponctionner les ressources de la planète. Quand on sait à quel point la planète est exsangue aujourd'hui, il faut arrêter d'exiger de chacun qu'il ponctionne les ressources de la planète pour justifier son revenu.
Alors les détracteurs disent qu'avec ce mode de rémunération, on ne stimulera pas la population à travailler, et si on ne travaille pas, on ne produit plus.
Vous avez déjà vu quelqu'un en bonne santé qui ne fait rien de sa journée? Je ne connais personne qui rêverait de passer sa journée véritablement, et sa vie surtout, sans jamais rien faire et jamais rien partager avec les autres. Et l'être humain est un être grégaire, c'est quelqu'un qui a besoin des autres pour échanger, pour communiquer, pour s'épanouir. Par conséquent, tous les êtres humains chercheront à aller avec les autres faire quelque chose de leur vie. Hein.
Est-ce que c'est pas un peu fatigant d'être utopiste?
Vous savez, quelqu'un m'a dit, si un jour on est allé sur la Lune, c'est parce qu'un homme l'avait rêvé. Si on ne rêve pas, si on n'imagine pas qu'on puisse faire autrement et mieux demain, je doute qu'on fasse un pas en avant. Être utopiste, c'est juste être un tout petit peu en avance sur son temps, un tout petit peu en avance sur ce qui se fait. Tous les gens qui ont changé le monde étaient des utopistes. Il ne faut pas douter qu'une poignée de gens utopistes puissent changer le monde. En réalité, c'est toujours comme cela que ça s'est passé. Margaret Mead, qui était une anthropologue, qui a prononcé cette phrase.
On l'aura compris, vous êtes très engagée. Vous êtes optimiste par rapport au futur?
Ah, quand on n'est pas optimiste, on ne peut pas faire ce que je fais. Donc je vais vous répondre oui, mais en même temps, ça ne va pas assez vite. Nous sommes dans une situation extrêmement grave au niveau de la planète, au niveau humain, quand on regarde l'état social, sociétal et financier des trois quarts des pays de la planète. Hein. Il y a quand même 2 milliards de gens qui vivent avec moins $1 par jour. Donc quand on est conscient de ces difficultés à la fois humaines et écologiques, on ne peut qu'être impatient de voir les choses se mettre en place tant qu'on n'aura pas obtenu le droit à l'expérimentation dans ce pays et dans l'autre. Eh bien, on ne pourra pas véritablement mesurer les effets de ces nouvelles propositions, de ces nouvelles façons de voir le monde. Oui, je suis optimiste, mais je suis très impatiente aussi.